Mille et une vie Habitat, le logement social trop peu connu, en direct du Salon de la MIF 2021.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Immo et Radio Territoria. Nous sommes toujours au Salon de la MIF à Villepinte, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, bien sûr, et nous sommes ensemble pour vous présenter les activités de Mille et une vie Habitat. Mille et une vie Habitat avec nos invités qui sont autour de la table. Nicolas Brunet, directeur donc Mille et une vie Habitat Île-de-France. Bonjour Nicolas Brunet. Agnès Labert, directrice du pilotage territorial de la performance. Bonjour. David Fernandez, responsable filière étudiante. Vous êtes présent en Île-de-France essentiellement, mais aussi dans nos territoires. On est sur Radio Territoria et c'est important de le dire évidemment. En Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine, le groupe rassemble 1284 collaborateurs au sein de 5 entreprises sociales pour l'habitat. Hein, c'est bien ça. Ça fait quand même du monde. Hein, beau développement quand même. Hein, il faut quand même le rappeler. Et le groupe a un objectif, anticiper le logement social de demain et en particulier sur les seniors et les étudiants. C'est quand même ça la particularité, c'est important de le dire, avec des résidences qui sont pensées pour eux. Et on va développer tout ça donc au cours de cette émission, bien évidemment. Nicolas Brunet, nous sommes au salon de la MIF et ça tombe bien, parce que Mille et une vie Habitat est un acteur de terrain, en particulier en Île-de-France, dans les communes. Tout d'abord, comment, et ça c'est une question plus d'actualité, on va dire, mais comment Mille et une vie Habitat se positionne à l'heure de la relance après cette crise sanitaire que l'on a tous vécue et parfois avec difficulté?
Bah, effectivement, l'année 2020 a été marquée par une situation inédite qui nous a conduit à d'abord prendre soin de nos habitants, de nos locataires et de nos collaborateurs. Donc, comme tout le monde, on a vécu les confinements. On a mis les moyens, je dirais, de protection et puis de délivrance du service. On a été également très, très en lien avec les collectivités locales, qu'on ne remerciera pas assez, pour avoir, elles aussi, fait ce qu'il fallait pour permettre de faire vivre nos résidences. Et puis après, on a, comme tous nos partenaires, eu quelques difficultés pour travailler à l'avenir, et notamment à la production de nouvelles résidences. Mais je pense qu'on va en parler pendant l'émission aujourd'hui. On a enregistré un recul d'un quart de notre production l'année dernière.
Ah oui, un quart quand même. Oui.
Un quart, oui, oui. Alors c'est la moyenne régionale. Hein. Mmh. Les régions d'Île-de-France notamment et de PACA ont été celles qui ont essuyé les plus gros reculs. Mais voilà, nous sommes maintenant bien alignés et avec des moyens renforcés, à la fois humains et financiers, pour répondre présent dans le cadre du plan de relance dès 2021.
Alors, beaucoup de Franciliens ont subi la crise de plein fouet, notamment vos locataires, hein, comme vous le disiez à l'instant. Les familles, mais aussi donc les étudiants et les seniors qui ont des petits budgets. Comment vous faites dans ces conditions-là pour ces gens-là, à Mille et une vie Habitat? Qu'est-ce que vous proposez?
Alors, on propose deux types d'accompagnement et d'offres. Je dirais que d'abord, on gère essentiellement des logements familiaux dans lesquels on va retrouver des seniors et des étudiants. Et là, nos équipes de proximité qui sont composées de gardiens, gestionnaires de résidences, conseillères sociales, avec des agences territoriales qui maillent toute la région Île-de-France, sont au plus près d'eux et travaillent avec eux à leurs problématiques, leur accompagnement social, financier, et travaille aussi à des solutions de mutation ou de décohabitation lorsque la situation du ménage change. Et puis le deuxième axe...
Vous avez senti pendant cette crise que les difficultés là, financières justement de vos locataires ont été accentuées?
Alors oui et non, c'est un peu paradoxal parce que je pense quand même que les pouvoirs publics et notamment l'État a fortement investi sur le soutien des entreprises, des restaurateurs. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines.
Quoi qu'il en coûte.
Le quoi qu'il en coûte avec du chômage partiel. Donc on a quand même pu avoir un taux de recouvrement, par exemple, de nos loyers qui ne s'est pas dégradé en 2020 et donc qui n'a pas mis à mal les ressources de l'entreprise. Et là, on a bien vu le résultat, encore une fois, de ce quoi qu'il en coûte. Mais je reviens sur le deuxième axe parce que là, j'ai parlé de nos équipes qui gèrent du patrimoine en propre. On a une offre qu'on développe depuis de nombreuses années et qu'on souhaite vraiment, à laquelle on souhaite donner plus d'ampleur. C'est la production de résidences qu'on appelle adaptées, qui sont donc spécialisées pour des publics soit seniors, soit étudiants, soit parfois des maisons relais à des publics en difficulté. Mais là, aujourd'hui, on va peut-être plus parler des seniors, des étudiants, de l'intergénérationnel. Et donc, à travers ce deuxième axe, on travaille avec des gestionnaires spécialisés. Et notamment, la LJT, présent avec nous aujourd'hui, est un gestionnaire connu, reconnu, oui. Et je dirais très bon. C'est pour ça qu'on travaille avec lui, pour permettre de gérer ces publics spécifiques. Parce que ce n'est pas forcément le métier d'un bailleur social de gérer une population, par exemple, étudiante, qui est soumise... à un rythme de l'année universitaire avec des rotations qui sont beaucoup plus fortes que sur du patrimoine classique.
Ouais, ouais.
Vous avez parlé de clownerie tout à l'heure. Moi, je parlerais plutôt de professionnalisme.
Ouais.
Il faut pouvoir s'adapter au public étudiant.
C'est parce qu'il a une bonne tête.
Le comprendre, le gérer, parce qu'il n'a pas forcément les mêmes heures de vie nocturne, ouais. diurne, etc. Bon, donc c'est vraiment un travail particulier. On est très content d'avoir des spécialistes.
D'ailleurs, pour vous, c'est un apprentissage aussi, le fait de travailler sur ces publics-là, c'est un apprentissage, j'imagine, à plein de strates différents.
Oui, c'est un apprentissage. Et puis, c'est aussi pour nous le moyen de dire à nos partenaires collectivités locales qu'on est capable de couvrir tout le spectre. Mmh. Puisqu'on peut construire à la fois des résidences étudiantes ou seniors 100% axées sur ces publics-là, mais on peut aussi en construire avec un bloc destiné à de l'habitat familial classique. Et puis un autre bloc destiné à du public spécifique. Ces programmes-là sont construits vraiment, je dirais, en...
Alors, moi, j'avais une question pour poursuivre Nicolas Brunet, parce que, évidemment, ça intéresse tous ceux qui nous écoutent. Public spécifique, logement pour tous, parce que c'est ça le fond de l'histoire, au final. Il faut loger tout le monde. Et on sait aujourd'hui qu'on a quand même un problème dans ce pays, c'est le prix du logement. Comment on fait pour faire du logement pour tous à prix modéré?
Écoutez, on met tout le monde autour de la table. On met tous les partenaires, tous les acteurs qui sont mobilisés sur ces questions-là. Alors, on a d'abord l'État qui nous donne des agréments, des subventions. On a aussi la région Île-de-France est très présente sur cet axe-là. Elle nous soutient, elle nous finance. On a aussi les collectivités territoriales qui mettent très souvent la main à la poche. Ça passe par le biais notamment de subventions. On appelle ça des surcharges foncières, puisque vous savez que le foncier en Île-de-France est très cher. Et puis, on a une forte mobilisation de Milieu de Vie Habitat qui, à travers ses fonds propres, met au pot au moins 15% du montage d'une opération.
Donc, le montage, c'est tout ça.
Voilà,
c'est tous ces acteurs-là autour de la table.
C'est tous ces acteurs-là. Et puis, on finit effectivement avec des prêts qu'on rembourse sur des durées longues et qui nous permettent, à travers ce montage, d'offrir des niveaux de loyer, je dirais, adaptés à ces publics.
J'ai senti dans le début de votre intervention tout à l'heure que vous aviez quand même envie de dire deux, trois choses que vous aviez sur le cœur par rapport à la situation actuelle du logement neuf. On le sait, c'est très compliqué parce que si on prend l'ensemble du logement neuf en France, on peut dire qu'il y a eu un écroulement. C'est même pas une panne, c'est un écroulement. 381 600 logements neufs ont été autorisés en 2020 en France. Ça représente un recul de 15% sur un an, ce qui est quand même pas négligeable. Ça veut dire quand même 65 000 logements en moins au moment où il faut loger toujours plus de monde, etc. Comment vous, chez Mille et Une Vie Habitat, vous ressentez cette situation? Et puis j'ai presque envie de vous dire, c'est le moment. Si vous aviez le président de la République face à vous, là, comme dirait l'autre, les yeux dans les yeux, là, vous lui diriez quoi sur ce sujet? Le logement, je le rappelle, est toujours la cinquième roue du carrosse en France.
Alors, je lui dirais, si c'est le président de la République, c'est plus un représentant de l'État, je lui dirais mobiliser les fonciers de l'État. C'est un grand classique, un serpent de mer. Je pense que là-dessus, on a encore de fortes marges de progression, les fonciers État. Après, aux partenaires des collectivités territoriales, je leur dirais que l'offre de logement social est aujourd'hui tout aussi qualitative et peut-être même plus qualitative que celle des promoteurs. Alors, je ne vais peut-être pas me faire beaucoup de copains parce qu'il y a beaucoup de stands de promoteurs aujourd'hui sur le salon. Mais je pense qu'on a des niveaux de cahier des charges qui sont les plus qualitatifs. Voilà. Donc, on produit du logement de haute qualité. Et donc, je dirais aux élus, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Je sais que la période n'est pas facile. On sort d'une année d'élection municipale l'année dernière. On va rentrer peut-être dans une autre élection de dimension nationale.
Ouais.
On sait que ce n'est pas forcément les périodes les plus simples pour délivrer de la construction, des autorisations de permis. Ceci étant, il y a un besoin qui est extrêmement fort. Et donc, nous avons besoin de la confiance, de l'accompagnement des élus. Et puis, peut-être un dernier mot, un dernier point là-dessus, c'est que de plus en plus, et notamment en Île-de-France, où le foncier est devenu de plus en plus rare, nous sommes amenés à intervenir pour refaire la ville sur la ville. Ce qui veut dire qu'il faut démolir des bâtiments obsolètes ou une partie d'entre eux pour reconstruire dessus. Et l'acte de construire, c'est un acte difficile parce que ça va créer de la nuisance pendant des mois, voire des années dans un quartier. Et ça, il faut le porter vis-à-vis des habitants. Donc, nous, on est là pour...
Et on sait que les recours, ça y va en ce moment.
Il y a les recours, effectivement.
C'est compliqué.
Et puis, puis, vous l'avez dit, on sort d'une période de Covid. Les gens aspirent à plus d'espace, plus de
verre.
Ils veulent
de l'air, oui.
Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que... Ils ont aussi besoin de loger leurs enfants qui vont grandir, qui vont après avoir un emploi, et cet emploi leur donnera accès au logement social. Il faut se rappeler que 80% de la population française est éligible.
au logement social. Absolument.
C'est une force de la France.
C'est peut-être un problème d'ailleurs, hein, non ? Vous ne croyez pas, vous ?
Non, moi je pense que c'est une force,
80%.
Un atout.
C'est une force ?
Ben oui, je pense que c'est une force et un atout, moi.
Ouais. Ouais. Non, parce qu'on pourrait se dire un pays qui va bien, où les gens ont un bon salaire, etc., n'ont pas besoin d'être éligibles au logement social aussi.
Oui, mais alors après, on sait que dans le logement social, on a différents niveaux de loyer, différents niveaux de financement. Donc, on peut s'adresser à tout type de population, avec le PLAI aux populations les plus modestes, et puis avec le PLS aux populations qui frisent le niveau des loyers intermédiaires. Voilà. Mmh. Donc,
Je vais revenir vers vous, Nicolas Brunet. C'était intéressant qu'on puisse faire, pour commencer cette émission, justement, qu'on puisse passer en revue toutes les questions dont on vient de parler. On va parler plus des projets qui sont sortis de terre, qui existent, comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien, tout ça. Et là, on a la spécialiste, c'est Agnès Labert qui est avec nous. Agnès, vous avez mis en œuvre différents programmes de construction, comme la passerelle. C'est à Juvisy. Quelles sont les particularités de cette résidence ? Vous mélangez le logement social avec les étudiants. Racontez-nous un petit peu.
Tout à fait. Donc, cette résidence, la passerelle à Juvisy, a été livrée en décembre 2020. Et c'est une résidence qui conjugue des logements étudiants pour 137 logements et également 27 logements locatifs sociaux, dont une grande partie est réservée aux seniors. Donc ça, c'est vraiment le souhait de la collectivité que d'installer des seniors dans ces logements.
Donc là, qui a proposé en premier ? C'est qui la poule et l'œuf, si je puis dire ?
C'est
1001 vies Habitat ou la commune, la collectivité ?
Ça a été... Pour le souhait d'installer des seniors, c'est vraiment la volonté de la ville.
Ouais.
Et après, c'est vrai que nous avons travaillé avec l'ALJT donc, pour toute la partie étudiante, puisque l'Association pour le logement des jeunes travailleurs avait déjà des résidences en gestion.
D'accord.
Sur Juvisy et à côté de Juvisy. Donc sur la résidence, plus particulièrement, plus spécifiquement, donc, on a une résidence qui est idéalement située, puisqu'elle est en centre-ville, elle est à proximité des transports, à proximité des commerces, donc très intéressant pour le public ciblé. Et puis, on a des espaces communs, des jardins partagés qu'on a réussi donc, à inclure dans l'espace de la résidence. Et l'idée du travail du départ, donc quand vous dites la poule et l'œuf, l'idée c'est de travailler avec la LGT pour avoir vraiment répondre aux besoins des futurs habitants, imaginer leurs nécessités, leurs besoins, et puis apporter des réponses adaptées,
des solutions
pour les personnes plus âgées avec des problèmes éventuellement de mobilité réduite, et également pour les étudiants puisqu'ils ont aussi des besoins à satisfaire.
Quand vous dites des réponses adaptées, par exemple pour les personnes à mobilité réduite, les personnes plus âgées, etc., concrètement, ça veut dire que l'équipement, si je puis dire, du bâtiment, l'équipement de leur appartement, etc., ça se traduit comment concrètement ?
Alors là, on n'a pas souhaité mettre trop l'accent sur l'équipement au sein des logements. On a des logements assez vastes, avec des surfaces satisfaisantes qui permettent...
On peut bien se déplacer,
fait.
Ça c'est important.
Mais n'avons pas fait d'adaptation particulière sur ces logements, puisqu'on est vraiment sur du logement familial classique. Donc il y a eu le souhait de la ville d'installer des seniors, et nous, c'est vrai que quand on a travaillé avec la LJT sur le côté résidence étudiante, on a aussi inclus des espaces communs, des espaces collectifs pour avoir le mélange des populations, la rencontre des populations étudiantes et seniors, qu'on trouvait importante dans le cadre de ce projet.
Pour que ça marche, un projet comme celui-ci, la collectivité est demandeuse, elle est vraiment à la manœuvre, mais ça veut dire qu'il y a un travail en amont entre vous qui est extrêmement fort, j'imagine.
Alors, beaucoup avec le gestionnaire. Ouais. À partir du moment où on travaille sur de l'habitat spécifique, en amont du projet, on travaille avec un gestionnaire pour travailler sur les surfaces, sur le nombre de logements nécessaires, puisqu'on a quand même des équilibres financiers. Hein. Enfin, je veux dire, la LGT,
bah oui, il faut que tout le monde,
forcément,
voilà.
A besoin d'avoir la dimension économique, rentre forcément
bien
en ligne de
sûr.
Compte. Donc, le gestionnaire est très important. Et puis, il y a aussi toute l'organisation de la vie de la résidence. Et puis, le côté animation. Et là, on avait la particularité de vouloir mélanger les publics étudiants et personnes âgées.
Mais alors, dites-moi, j'ai envie d'être une petite souris dans l'immeuble. Comment ça se passe ?
Alors là...
Est-ce que ça se passe bien ? Vous le savez ou pas ? Est-ce que ça se passe ? C'est David qui peut répondre
à
ça ?
Je vais passer la parole à David.
Non, mais
qui
très
va
rapidement.
Raconter.
Alors, comment ça se passe entre les gens ? Racontez-nous. Donnez-nous envie de vivre dans ces résidences.
Bon, c'est la création, en fait, de lieux de vie, tout simplement, avec... plus que des voisins, c'est également des gens qui sont amenés à faire des choses ensemble, à agir ensemble, que ce soit s'occuper d'un jardin partagé. On se rend compte que finalement, les gens...
Vous fournissez la pelle bêche et le râteau pour le jardin parce que...
Et même l'huile de coude.
Ah bah c'est bien ça, ouais, c'est bien. Je vais peut-être venir, moi, habiter là-bas.
Vous êtes le bienvenu. Venez avec votre chapeau et votre
fourche. J'ai tout ce qu'il faut. Mais je crois que j'ai du matériel du jardin aussi, je peux vous en fournir.
Donc, oui, vraiment, la création d'un lieu de vie, c'est très important et ça passe par la communication, ça passe par un accueil et ça passe aussi par l'explication de savoir en fait qu'effectivement on est à la base de quelque chose, une première population qui arrive, à qui on loue un logement effectivement, mais on le loue en expliquant qu'on veut travailler de manière différente, de manière solidaire. De manière avec une forte envie de développer le quartier et de s'intégrer au-delà du quartier, mais de la ville.
Vraiment non, on recrée quelque part, j'ai envie de dire, pour donner une image, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que la société française est fracturée. Et là, justement, on recolle les morceaux. Quoi. Moi, c'est ça, je trouve formidable dans ces projets. On recolle les morceaux, ou en tout cas, on y travaille. Et c'est intéressant de remettre du lien entre les gens, quoi.
Exactement.
C'est la place du village qui renaît, quelque part.
En fait,
peu.
C'est aussi amené à faire se côtoyer des gens qui ne se côtoieraient peut-être pas dans leur vie de tous les jours.
Et se découvrir et mieux se comprendre.
Alors que là, voilà, ils partagent un lieu de vie commun, des espaces communs. Donc, le soulignaient Nicolas et Agnès tout à l'heure, oui, on a des parties communes qui sont vraiment, qui prennent vraiment leur essence, quoi. Parties communes, voilà. On partage.
Ça veut dire ce que ça veut dire.
Exactement.
Bon, je vais revenir vers vous dans un instant. Je voulais continuer avec Agnès parce que c'est vrai qu'il faut quand même dire quelque chose. Vous avez reçu l'équerre d'argent sur une résidence, alors qui est pas la même. Hein.
Non.
C'est la résidence à Palaiseau, Rosaline Franklin.
Tout à fait.
Alors l'écart d'argent, c'est quoi ? C'est les Césars du bâtiment ? Je sais pas.
Sur le plan de l'architecture, oui,
en quelque sorte. Ouais. Alors à quand l'équerre d'or, hein ? Parce que maintenant, c'est ça le prochain challenge quand même. Et alors qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette résidence ?
Alors cette résidence qu'on a livrée juste avant, qui a été livrée juste avant, la résidence de Juvisy, donc la résidence de Palaiseau a été livrée en octobre 2020. Elle est située donc là sur un environnement totalement différent puisqu'on est sur le plateau de Saclay, donc on est sur un environnement en cours d'urbanisation actuellement. Donc c'est une résidence qui comprend 192 logements étudiants. Donc là aussi, on l'a confié bien évidemment à notre partenaire privilégié, la LGT. Et ce que je voudrais noter sur cette résidence, c'est le parking. On a un parking. Alors c'est un petit peu particulier de parler de cet espace parking. C'est un parking qui est en sous-sol.
J'espère que vous avez prévu le branchement électrique pour la voiture électrique. Parce que vous savez que maintenant... la voiture qui pollue, on n'en veut plus. Donc
Tout à fait. Mais en fait, ce parking, sa spécificité, c'est qu'il part depuis le sous-sol et il va jusque dans les étages. Et toute la partie extérieure du parking qui est en étage, sur plusieurs niveaux, est transformable en logement. Voilà, donc
ça
là
veut
aussi...
dire que, admettons, j'habite au deuxième étage, par exemple. Ben, j'ai ma partie parking au deuxième étage.
Oui.
C'est ça, en fait
Oui, enfin, disons que le parking n'est pas forcément lié au logement.
D'accord.
Mais là, vous avez la possibilité sur les parkings qui sont en étage...
De pouvoir les transformer,
du jour au lendemain. D'en faire du logement. Il faudra nous laisser un petit peu de temps, mais la transformation, comme le soufflait Nicolas, est réversible. On est sur un espace réversible.
Et ça, voilà. c'est quelque logement. Chose voilà, que vous aviez imaginé, étudié. Je sais pas, Nicolas, comment s'est née cette idée? Elle est extra, cette idée.
Oui. Elle est extra, cette idée. Elle est née parce que quand on conçoit des projets, on essaye d'anticiper l'avenir. Alors, il y a l'avenir de court terme, à 2-3 ans, puis il y a le long terme. Il y a les 20-30 prochaines années. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que sur une résidence comme celle-ci, avec le développement d'autres usages de déplacement, on pense, et on le sent tous, que la place de la voiture va fortement diminuer. Avec la ville, l'établissement public Paris-Saclay, le concessionnaire du parking... On a fait ce pari sur l'avenir, de se dire deux niveaux en sous-sol, c'est suffisant sur le très long terme. Mais les deux niveaux du premier et deuxième étage, peut-être que dans 20-30 ans, avec une voiture moins présente, on n'aura plus besoin de les louer, il n'y aura plus la demande. Et donc, tous les branchements, tous les réseaux, toute la conception sera prête pour, de manière simple et peu coûteuse, transformer ces espaces actuellement de stationnement en logement. Alors, ce sera peut-être une extension de la résidence étudiante, ce sera peut-être d'autres types d'habitat, on verra dans 20-30 ans ce qui se passera, mais c'est vraiment cette vision de l'avenir de plus long terme.
Et une question, quand on a l'équerre d'argent comme vous l'avez eu là, j'imagine, entre nous, ça booste quand même l'image que le public peut avoir de vous. Enfin, ça a dû changer les choses aussi.
Ah c'est faire pour évoluer ça qu'on les choses à vitesse grand V, quoi.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais tout à fait.
Alors, ça, vous l'avez ressenti, ça, oui.
Oui, on l'a ressenti. On va essayer, évidemment, de surfer dessus. Et notamment sur ce territoire du plateau de Saclay qui recouvre des besoins très, très importants, pour ne pas dire plus. Hein. On sait tous que le plateau de Saclay
est en pleine évolution.
Et de renommée internationale dans tous les hit-parades et aux plus hautes places écoles internationales. Donc, de toute façon, il y a cette volonté politique portée par les élus, par les maires et également par l'établissement public avec lequel nous sommes en partenariat. Et nous avons bien l'intention de participer aux prochaines consultations avec la LJT et de continuer à développer des produits de qualité tout en nous adaptant encore à chaque fois en surmesure à l'environnement dans lequel nous nous implanterons.
Alors, je voulais parler d'un troisième exemple que je trouvais intéressant. Alors, c'est où Nicolas ou vous, je ne sais pas qui veut en parler, mais au PEC, dans les Yvelines, le projet en développement des bureaux réhabilités en 88 logements sociaux, étudiants, jeunes actifs, avec une réhabilitation de la galerie commerçante au rez-de-chaussée. Là encore, c'est un mix qui est intéressant. Et moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, tiens, mais bon, parce que c'est vrai que quand on parle de ces bureaux qui sont transformés en logements, on en parle encore plus depuis la fin de la crise ou depuis quelques mois. Mais c'est un peu un serpent de mer, souvent, ça aussi. Il n'y aura quand même pas 150 millions de bureaux qui vont être transformés en logements au final. Mais c'est un projet intéressant. C'est un projet que vous avez envie de porter plus largement. Vous avez envie de refaire ça plus régulièrement. C'est possible. Racontez-nous un peu tout ça.
Alors effectivement, c'est vraiment un axe sur lequel on souhaite insister parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le foncier est rare. Donc il va falloir transformer...
Il faut bien le trouver quelque part.
Il va falloir transformer des actifs qui occupent ce foncier, que ce soit du logement ou du bureau.
Bah oui.
Autre élément, et je pense qu'on l'a tous vécu de plein fouet pendant cette crise Covid, on voit bien que les entreprises ont complètement fait muter leur manière de faire travailler les salariés avec des accords sur le télétravail qui commencent d'ores et déjà à avoir des impacts sur les besoins en surface des entreprises. Donc on voit bien qu'il y a des mètres carrés de bureaux qui vont arriver entre guillemets sur le marché.
La question va être de savoir si sur la durée ça va continuer.
Voilà.
On ne sait pas.
Pour répondre à votre question sur la ville du PEC dans les Yvelines qui est située à... Je dirais 2-3 encablures des Hauts-de-Seine, puisque les Yvelines, c'est un grand département. Donc là, on est vraiment sur l'est des Yvelines, en bordure du Grand Paris. On est sur un immeuble de bureaux en plein centre-ville, avec des commerces en rez-de-chaussée. Et là encore, à la genèse, une commande de l'élu, qui est de dire, moi, mon besoin, c'est d'avoir un foyer jeune travailleur sur cet actif, mais aussi, parce qu'il y a un équilibre financier à trouver, on va faire une trentaine de logements en accession libre. Et ceux-là seront réalisés par un promoteur immobilier. Donc voilà, nous sommes deux acteurs qui intervenons, un promoteur immobilier plus nous en tant que bailleur social. Ça, c'est sur la partie offre de logement. Mais pour réaliser ce projet, on a besoin d'être encore plus nombreux en tant qu'acteurs. Évidemment, le maire hein, qui passe la commande, qui délivre les autorisations d'urbanisme. On a également un partenariat avec l'établissement public foncier d'Île-de-France qui vient aider à porter le foncier, à sécuriser l'opération, à rassurer le maire, et c'est bien normal. Et puis, un autre acteur, c'est la foncière transformation immobilière, qui est une foncière qui a été créée par Action Logement. Mmh. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais je le dis maintenant, peu importe. Le groupe Millium Vie Habitat, c'est deux actionnaires. Un actionnaire majoritaire, AXA.
C'est vrai.
AXA, 80% de notre actionnariat, et puis Action Logement, 20%. Donc nous avons des relations comme
Action Logement qui permet à beaucoup de gens de pouvoir avoir accès au logement, justement, parce qu'il y a des aides qui sont méconnues.
Mais tout à fait.
Souvent méconnues.
Tout à fait. Donc Action Logement a deux branches, une Action Logement Service qui aide les salariés à accéder au logement, qui aide également les jeunes à travers des cautions, des garanties, et ça c'est important. Et puis il y a Action Logement Immobilier qui est actionnaire de sociétés HLM à titre majoritaire, qui sont les sociétés du groupe Action Logement. Nous sommes une forme un peu hybride, c'est-à-dire qu'Action Logement est actionnaire minoritaire, mais encore une fois, nous avons un partenariat très fort avec eux. Et avec cette foncière, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une capacité d'investissement extrêmement forte. Et elle nous permet d'acquérir des actifs, notamment de bureaux, sur des zones très valorisées que nous ne pourrions pas, sur lesquelles nous ne pourrions pas nous positionner seuls. Donc le montage, en deux mots, c'est que la foncière permet de faire une offre au prix du marché. Et cette offre, qui est souvent importante, nous l'amortissons avec eux dans le cadre d'un bail emphytéotique sur une soixantaine d'années. Et à l'issue de ce bail, nous sommes évidemment prioritaires pour le racheter, voilà, et devenir propriétaire en pérenne. Mais du coup, ça nous permet de jouer dans la même cour que les acteurs privés. Et ça nous permet d'offrir à des élus des solutions pour transformer ces immeubles.
Et au-delà du PEC dont on parle, il y a des projets là
arrivent. Alors celui-là est effectivement validé, c'est pour ça qu'on en parle. Mais on a également d'autres prospects, d'autres opportunités. Et je pense que c'est un axe important pour l'avenir qu'il nous faut travailler.
Et entre nous, le bureau est mort ? Non, il n'est pas mort.
Non, il n'est pas mort, mais il est en pleine mutation. Et je pense que c'est notre responsabilité de récupérer les surfaces pour ne pas les laisser vacantes.
On est quand même dans un pays... Et les utiliser, bien sûr. D'autant plus qu'elles sont modulables, en plus.
Elles sont modulables.
Telles que c'est construit, on peut faire un peu ce qu'on veut à l'intérieur. Ouais. Je vais revenir vers vous dans un instant, mais je voulais donner la parole à David, qui s'occupe donc de toute la gestion et de l'animation des lieux et revenir là-dessus parce que pour le coup il y a ce côté quand même très très humain. Comment vous arrivez justement à faire en sorte que des publics qui se seraient peut-être pas croisés se croisent, partagent, vivent ensemble? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? J'imagine quand même qu'au départ, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais j'imagine qu'au départ, il y a des appréhensions de part et d'autre quand même. Donc comment vous agissez, comment vous faites?
Les appréhensions, en fait, c'est vraiment au début. Et en fait, c'est de savoir aussi qu'à un moment, comme on disait tout à l'heure, il y a des parties qui sont communes et donc qui sont vraiment mises à la disposition pour que les gens puissent se rencontrer. Mais il y a aussi des espaces qui sont vraiment aussi assez...
Donc il y a les espaces partagés.
Voilà. Et des espaces qui sont vraiment dédiés à la vie de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants sont quand même regroupés sur une aile du bâtiment et les seniors sur une autre aile. Après, effectivement, on communique donc par le biais d'affichage, par le biais d'action, de ce qu'on appelle, nous, la vie résidentielle. Donc forcément, ça va du pot d'accueil, mais ça va aussi par l'intervention d'autres associations qui viennent pour présenter,
une action sur du
comportement écologique, sur la fracture numérique.
Ça peut être, je sais pas, un groupe de musiciens, par exemple, qui vient faire une petite animation pour tout le monde.
Oui,
la musique, ça adoucit les mœurs, on dit.
La musique, ça adoucit les mœurs. Alors voilà, on essaye quand même de rester dans des cadres, on va dire, avec des décibels maîtrisés.
Oui.
Mais oui, en fait, tout passe par une communication et finalement...
Qu'est-ce qu'ils nous disent, les gens ?
Les gens, en fait, sont ravis. sont ravis parce que justement on leur propose des activités qu'ils n'auraient pas dans une résidence lambda, avec des gens différents. Et cette différence justement fait qu'ils se côtoient et que ils partagent des expériences de vie. Des personnes un petit peu plus avancées racontent moi je faisais ça quand j'étais jeune. Et puis les jeunes disent aussi moi je suis étudiant par exemple en informatique.
Si je peux donner un coup de main.
Exactement. Ouais. Après, des affinités se créent et on s'approprie un espace. On s'approprie un espace et justement, cette carapace un petit peu parisienne qu'on peut avoir, elle tombe et finalement, les gens se rendent compte.
Mais c'est parce qu'on est tous des faux parisiens. Hein. On arrive tous de province. Donc, c'est la véracité de nous-mêmes qui revient dans ce cadre-là, en fait.
En tout cas, l'accueil est quelque chose de primordial et on accueille les gens de façon humaine, solidaire et ça se passe.
Bon, alors ça, c'est ce côté-là. Mais vous avez aussi, il y a un côté très pratique aussi dans votre activité. Alors, l'ameublement, laverie, c'est vous.
Après, oui, quand on fait
Internet.
L'accès Internet qui est essentiel aujourd'hui.
Pour les étudiants, ça, c'est quelque chose, en fait, si vous voulez, où on ne peut pas vraiment couper. Il faut toujours réfléchir sur le mobilier. Hmm. Comment aménager des espaces qui ne sont pas très grands, hein, c'est en moyenne 18-20 mètres carrés. Comment les aménager pour que justement ils puissent avoir un espace pour étudier, pour manger, pour se détendre également. Avec la pandémie, justement, on se dit, tiens, il y a peut-être encore d'autres réflexions à avoir sur comment aménager un espace peut-être encore plus connecté, peut-être plus communicant avec les autres, pour en fait se retrouver un peu moins isolé. Donc c'est ça.
Oui, parce que ça a été un des problèmes quand même de cette crise. On a vu quand même des étudiants qui se retrouvaient coincés dans leur chambre de 10 mètres carrés, des chambres qui parfois sont dans un état. C'est pas le cas chez vous évidemment, mais on a vu des images terribles avec des gens qui allaient faire la queue aussi au Resto du Cœur quand même, parce qu'ils n'avaient plus rien à bouffer puisqu'ils avaient perdu leur petit boulot. Donc c'était quand même un moment assez terrible. Et c'est vrai qu'il faut se dire que des crises va y en avoir d'autres.
Bien sûr, et puis
probablement.
Après, on n'a pas tous la même appréhension. Les jeunes sont en général moins affectés que les personnes âgées. Donc, ce qui fait qu'en fait, à partir du moment où ils peuvent aller vers les autres pour dire on va mutualiser des courses ou alors on va aller à tel endroit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Voilà, là, il y a vraiment une émulation très intéressante au niveau social, quoi.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est important et intéressant parce que. Aujourd'hui, on en a vraiment, vraiment besoin. Dans les différentes choses que j'aimerais encore évoquer avant la fin de cette émission, et je voudrais redonner la parole à Agnès, je voudrais qu'on parle des maisons de Marianne. Racontez-moi ce que sont les maisons de Marianne et comment ça fonctionne.
Alors, les maisons de Marianne, c'est un dispositif pour répondre aux problématiques du vieillissement, de la perte d'autonomie et pour permettre l'inclusion des personnes handicapées dans un environnement plus classique. Donc, les maisons Marianne, c'est un cahier des charges techniques déjà pour travailler sur l'ergonomie des logements, donc avec beaucoup de prescriptions en la matière. Une salle de convivialité, donc pour permettre des activités avec l'ensemble des résidents sur le patrimoine. Mmh. Et puis, une salle qui va être dédiée aux prestataires, puisque, en général, dans ce type de résidence, on va avoir des intervenants tels qu'un kinésithérapeute, un podologue, un coiffeur, qui vont venir pour proposer leurs services. Ensuite, donc, il y a la particularité du dispositif des maisons Marianne, c'est qu'il y a un animateur qui est salarié des maisons de Marianne et qui vient régulièrement sur la résidence pour proposer des animations. Donc là, on va rejoindre ce qu'on peut retrouver avec la LJT et puis des animations parfois un petit peu plus ciblées sur les résidents.
D'accord. Et ces maisons de Marianne, il y en a beaucoup ? Il y en a combien ?
Alors, nous, actuellement, on a environ 251 logements qui ont cette particularité.
D'accord. C'est déjà pas mal.
Voilà, des maisons Marianne, avec une dernière résidence qui a été livrée, de 80 logements, qui a été livrée à Maul, il y a peu, et qui fonctionne avec ce principe.
Très jolie commune des Yvelines.
Il faut savoir aussi que pour travailler sur ce dispositif, il est vraiment important d'avoir la collectivité qui travaille avec nous très en amont, puisqu'on a vraiment besoin d'avoir de cerner la population vieillissante locale qui aura besoin d'intégrer ces logements. Puisque là, on est vraiment sur des logements particuliers et adaptés à une population vieillissante. Donc ça, c'est très important d'avoir la population, d'avoir le public. Donc là, la collectivité a tout son rôle à jouer avec nous. Et on ne peut pas travailler les maisons de Marianne sans une collectivité.
La difficulté de ce public, oui. Et on a tous des parents qui vivent de plus en plus longtemps, mais avec des comorbidités qui sont parfois complexes, c'est que les gens veulent rester chez eux au départ. Et donc, il faut arriver à trouver des solutions, etc. Et ça, je trouve que c'est une belle solution pour les rassurer. Parce que quand on est âgé, on a besoin d'être rassuré aussi.
Tout à fait.
Et j'imagine donc que ce public-là, quand même, apprécie justement ce côté-là des maisons de Marianne.
Oui, et puis on a un petit plus aussi, c'est le gardien d'immeuble, donc le gardien Mille et Une Vie Habitat, qui lui va être formé et sensibilisé à la problématique des publics vieillissants. Donc il va être beaucoup plus en veille, entre guillemets, qu'un gardien classique sur la résidence. Il va être plus attentionné et puis il aura une posture, offrira une posture adaptée au public.
Il va tout de suite voir si madame Intel ou monsieur Intel se sent pas bien ou n'a pas l'air dans son assiette depuis plusieurs jours. Donner l'alerte peut-être,
tout à fait,
etc.
Tout à fait.
Et ça, c'est évidemment très important dans l'accompagnement. Je voulais parler également de Chers Voisins, association qui a été montée par votre groupe il y a quelques temps. C'est un mode de gestion particulier qui permet de réduire les charges locatives.
Alors, pas seulement, puisque vraiment l'essence de ce dispositif Chers Voisins, c'est le lien social et interagir entre voisins. C'est vraiment le concept, c'est interagir entre voisins. Donc après, oui, il y a une dimension sur la réduction des charges locatives, parce que les gens vont s'atteler à faire des tâches de ménage, d'entretien dans la résidence. Ils vont, par exemple, travailler sur les espaces verts, les entretenir. Donc, il n'y aura pas besoin de prestations sur les espaces verts, ce qui va permettre de réduire les charges locatives.
C'est comme ça qu'on arrive à cette réduction. Oui.
Voilà, tout à fait. Après, c'est pas vraiment le concept, c'est d'initier et de favoriser les relations entre les résidents, véritablement.
Vous avez demandé des droits à M6, j'espère, parce qu'ils ont pris votre titre, je crois, Chers Voisins. Hein, tous les soirs, c'est le titre qu'ils utilisent.
Alors, juste à noter que Chers Voisins, c'est une initiative lyonnaise. Donc, c'est Solar, notre filiale à Lyon, qui a initié ce dispositif avec une société d'ingénierie sociale qui s'appelle Réciprocité et l'Université Lyon 3.
Et là aussi, développement, évidemment.
Oui, tout à fait.
Développement sur la longueur.
Tout à fait. Et l'idée de Chers Voisins, c'est d'aller au-delà de la résidence, de pouvoir s'immerger complètement dans le quartier, donc avoir du voisinage plus large, voire certaines communes sont très intéressées pour que ça puisse irradier sur la commune.
Voilà. Vous êtes très présent en Île-de-France. Juste une question, je vous laisse la parole. Vous êtes très présent en Île-de-France, on l'a dit, et dans quelques autres régions. Vous sentez qu'il y a des territoires où il y a une appétence plus forte que d'autres sur ce genre de programme, d'initiative ?
Alors, on a un patrimoine sur lequel Chers Voisins est utilisé, et c'est à Lieusaint, donc en Seine-et-Marne, où donc on a cette dimension Chers Voisins qui fonctionne très bien.
Je ne sais pas, Nicolas, sur cette question-là, qui est quand même intéressante, et son développement ?
Oui, en complément. Alors, il y a les programmes de Lieusaint qui fonctionnent. On a un programme qui va sortir à Cergy. Et effectivement, c'est un produit qu'on développe et qu'on propose de plus en plus à nos partenaires élus. Et justement, parce qu'on est au salon de la MIF, moi, ce que je voudrais dire pour valoriser ce dispositif Chers Voisins, c'est que c'est aussi le moyen pour que les habitants s'approprient leur espace de vie. Assez souvent, quand on est bailleur social, on fait le constat que les gens portent du soin à leur logement. Mais les parties communes, souvent, ça peut commencer à laisser désirer. Il y a des occupants qui sont plus ou moins soigneux, respectueux.
D'où l'importance du gestionnaire qui est là pour mettre les points sur les i aussi.
Oui, oui, oui. Mais en même temps, il faut aussi que les gens se prennent en charge et arrêtent de nous dire dans les enquêtes de satisfaction que ce n'est pas assez propre dehors ou dans les escaliers. Il faut aussi
vous qui salissez.
Oui, enfin là, quand même.
Il faut dire aux gens, mais regardez les rues de Paris. Les Parisiens se plaignent parce que les rues sont sales, mais les gens jettent leurs papiers par terre.
Oui, bon, tout à fait.
Alors on peut mettre sur le dos de la maire de Paris.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'en tant que bailleur, on a tous eu un échange avec un maire qui nous dit dans la rue, j'ai de la copropriété, c'est nickel, les gens taillent le gazon avec leurs ciseaux. Et puis de l'autre côté de la rue, c'est du logement social. Ça a beau être du pavillon ou du petit collectif, on voit vraiment que c'est du logement social. Il n'y a pas la même appropriation. Les clôtures sont défoncées, les pelouses ne sont pas tondues. Avec un dispositif comme Chers Voisins, on place nos locataires dans une posture de copropriétaire.
Ils s'approprient, et donc de responsabilité.
Exactement. Ils s'approprient les lieux. Hein, parce que quand c'est vous qui nettoyez l'escalier, qui vous occupez de la pelouse, de la taille des arbres et d'autres aspects de la résidence, bah, vous les regardez et vous demandez à vos voisins de les respecter. Et si tout le monde se responsabilise, ça marche. Et donc, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, ça fait baisser les charges et ça fait baisser la quittance. Donc,
et de manière, on a une fourchette sur la baisse des charges. On peut en donner... Non, parce que ça peut attirer aussi des gens vers ce...
Fourchette, c'est peut-être difficile à dire là aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des baisses substantielles. Je pense qu'en termes de fourchette, on peut dire que entre 20 et 50%,
ah bah, ça, c'est énorme.
Non, mais c'est très important.
C'est très énorme.
Donc, il y a un intérêt financier, il y a un intérêt de création de liens et de respect d'appropriation des lieux. C'est...
Alors, Nicolas, on arrive bientôt au terme de cette émission. Mille et une vies habitat, comment vous imaginez l'avenir au global? Est-ce que vous voyez l'avenir en rose?
Écoutez, on
non, parce qu'il y a toutes les difficultés dont on a parlé, donc voilà.
Oui, mais en même temps, on est là pour résoudre de la complexité, c'est notre métier. Donc, on est résolument optimiste. Comme je le disais au début de l'émission, nous avons des moyens importants. Nous les renforçons, que ce soit au niveau de nos moyens humains sur le terrain pour aller chercher du développement, pour maintenir une gestion de qualité, parce que c'est aussi ça notre vitrine. Et donc, nous avons augmenté nos objectifs de développement pour l'année 2021 à 2700 logements pour le groupe. On a des filiales, on en a parlé rapidement tout à l'heure, en région qui sont très dynamiques, hein, sur PACA et Rhône-Alpes, un peu sur la région bordelaise maintenant, qui sont des zones tendues où il y a des besoins d'offres. Et sur l'Île-de-France, nous avons un objectif de 1200 logements pour 2021. Donc aujourd'hui... les actions sont enclenchées. C'est pas évident, mais nous résoudrons l'équation justement en agissant sur tous les types de produits de public, étudiants, seniors, intergénérationnels, logement familial classique. Et je termine au passage aussi en disant que nous sommes capables de répondre avec du logement intermédiaire. Alors, sur les 1200 logements que nous souhaitons réaliser en Île-de-France, nous en ferons 200 en logement intermédiaire. C'est aussi un moyen de faire sortir des programmes. Parce que les équipes financières en logement social sont difficiles à trouver. Et en intégrant des doses de logement intermédiaire, ça nous permet également de faire des offres qui sont au niveau des prix de foncier attendus. Ça répond aussi à un besoin, puisque en Île-de-France...
Les primo-accédants, hein, par exemple.
Les primo-accédants, voilà. Et puis il y a des gens qui sont dans le logement social, qui peuvent soit sortir du logement social pour aller vers de l'intermédiaire, ou tout simplement des gens qui ne trouvent pas.
Oui. Voilà. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est dans le logement social qu'on doit y rester toute sa vie non plus.
Voilà.
Il faut... Non, mais il y a toujours ce problème-là en France. D'ailleurs, on est dans le logement social, on est dans une case, on va rester dans cette case. Et l'objectif quand même pour les gens, c'est effectivement à un moment de devenir propriétaire. Enfin, c'est cet objectif-là qu'il faut leur donner.
Exactement. Et puis le logement intermédiaire, même s'il est plus cher que le logement social, il est moins cher que le logement privé libre. Voilà.
Ouais,
quand vous êtes à Paris à 25 euros du mètre carré dans le libre, en logement intermédiaire, vous pouvez être à peut-être 20 ou un peu moins de 20 euros. Donc ça reste quand même plus intéressant.
Un dernier mot. Alors vous êtes déjà adressé un peu aux élus, mais un dernier mot. On est à la MIF, à destination des maires en général d'Île-de-France. Si vous aviez un conseil à leur donner, je ne sais pas, ça serait lequel?
Non, mais je leur dirais tout simplement, faites-nous confiance. Nous sommes des acteurs présents depuis très longtemps sur les territoires. Alors c'est vrai que souvent les bailleurs sociaux, et notamment nous, Mille et une vies habitat, nous avons développé beaucoup de parcs importants dans les années 60, avec ce qu'on appelait les grands ensembles, souvent situés à la périphérie ou en grande périphérie. Je pense qu'on a fait la démonstration avec nos programmes en rue. Nous en avons, nous, une douzaine au niveau de Mille et une vies habitat. On a fait la démonstration qu'on était capable de transformer ces quartiers par de la démolition, par de la reconstruction, par des adaptations. Et donc, faites-nous confiance, parce que ce savoir-faire-là, on est capable de le déployer maintenant aussi dans des centres-villes anciens ou à des échelles peut-être plus modestes pour faire la ville sur la ville et répondre encore une fois aux besoins des habitants. Et chaque élu a devant lui une famille dont l'enfant devient étudiant, infirmier, infirmière... fonctionnaires, employés ou ailleurs,
eh oui.
Et a besoin de se loger. Voilà. Et donc le paradoxe, c'est de ne pas plus pouvoir le loger dans la ville où il a grandi, près de ses parents. Bon, le logement social peut répondre à cette question. Faites-nous confiance.
Le logement, c'est la vie. Exactement. Tout simplement. Voilà. Merci Nicolas Brunet, merci directeur Mille et Une Vie Habitat Île-de-France, qui était avec nous. Agnès Labert, directrice du pilotage territorial de la performance. Et David Fernandez, responsable donc filière étudiante à l'Association pour le logement des jeunes travailleurs. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Et je suis sûr que l'on va se retrouver bientôt. Merci beaucoup et à très vite.
Merci beaucoup.
Mille et Une Vie Habitat, le logement social trop peu connu, en direct du Salon de la MIF 2021.